Bonjour Bruno Leroux.
Bonjour.
Le troisième homme du désormais très célèbre déjeuner entre François Fillon et Jean-Pierre Jouyet est donc sorti de son silence. Dans le Figaro, Antoine Gosset-Grainville, qui est un proche de l'un et de l'autre, de Jean-Pierre Jouyet et de François Fillon, donc, affirme que l'ancien Premier ministre n'a jamais évoqué les affaires judiciaires de l'UMP ou Nicolas Sarkozy au cours de ce fameux déjeuner. C'est donc aujourd'hui un embarras supplémentaire pour le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet.
Je crois qu'il faut depuis maintenant presque une semaine qu'il y a cette affaire, en tout cas quelques jours, ramener à la réalité des choses. La réalité des choses, c'est qu'on parle d'un dépassement de compte de campagne sur lequel c'est l'UMP elle-même qui a demandé l'ouverture de procédures judiciaires. On parle d'une affaire Big Malion qui intéresse Monsieur Sarkozy quand il était président et candidat à son renouvellement à la présidence de la République. Ensuite, il y a un déjeuner. Et ce déjeuner n'a donné lieu à absolument aucune intervention puisque ce n'est plus la pratique. Donc que va-t-on aller chercher en supplément? De savoir ce qui s'est dit dans un déjeuner au mois de juin où M. Fillon, qui venait d'être en charge avec un triumvirat des activités de l'UMP, était très certainement, et à juste titre d'ailleurs, scandalisé par les écuries d'Augias qu'il découvrait. Et il aurait pu passer un déjeuner sans en parler, sans évoquer cela, sans évoquer ce capharnaüm qu'il a trouvé à l'UMP. Enfin, soyons sérieux.
Donc pour vous, il va de soi qu'il a été question de ces affaires au cours du déjeuner.
Mais je n'imagine pas, c'était dans toutes les conversations à ce moment. Et donc je fais confiance même totalement à M. Jouyet pour dire ce qui s'est passé, et qui n'avait d'ailleurs rien de choquant, que l'on se retrouve pour discuter des responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui. J'imagine mal d'ailleurs, connaissant M. Fillon, voyant ce qui est dit par M. Sarkozy dans les livres, parce que quand même, il y a une ambiance qui est une ambiance absolument terrible entre eux. Quand on lit le livre de vos confrères sur les propos de M. Sarkozy, sur M. Fillon, la façon dont ils le considèrent, on peut bien s'imaginer que dans ce genre de déjeuner, il ne se dit pas que des choses agréables. De là à en faire, comme on en fait maintenant depuis 4 ou 5 jours, un événement politique extraordinaire, il n'y a aucun événement. Il y aurait eu un événement politique si ce déjeuner avait donné lieu derrière à des interventions sur le cours des affaires judiciaires. Ça n'a pas été le cas, ce n'est jamais le cas depuis 2 ans.
Vous faites confiance, avez-vous dit, à Jean-Pierre Jouyet, vous lui faites confiance pour dire la vérité?
Bien entendu que je lui fais confiance.
Alors pourquoi a-t-il changé de version?
Mais parce que je crois que dans un premier temps, mais c'est très clair et c'est très compréhensible, dans un premier temps, compte tenu des propos qui ont dû être tenus au cours de ce déjeuner, il a cherché à épargner M. Fillon. Et puis ensuite, voilà, il a dit les choses qui s'étaient passées réellement.
On peut appeler ça un mensonge?
Mais non, je n'appelle pas ça un mensonge, j'appelle ça une réaction de protection de la nature véritable.
Mais le mensonge est parfois une réaction de protection.
Oui,
hein.
Bien entendu, mais on peut...
Souvent
pas,
même.
Ce n'est pas un mensonge parce qu'il n'y avait absolument aucune volonté ni de mettre en difficulté, ni de nuire. Et c'est pour ça que je ne comprends pas ces propos. Il y avait un déjeuner qui était un déjeuner privé, dans le sens où il n'a donné lieu à aucune intervention publique, absolument aucune. D'aucune façon. Et donc, vouloir aujourd'hui mettre en difficulté le secrétaire général, c'est vouloir que la droite se rabiboche à bon dos sur le dos du secrétaire général de l'Élysée.
Il s'y est quand même mis un peu lui-même en difficulté.
Mais je l'ai dit, d'ailleurs, je n'ai pas été le seul, je pense qu'il y a une maladresse à avoir voulu, comme ça, très certainement, protéger sur une conversation qui n'avait aucune portée publique, puisqu'elle n'a donné lieu, je le redis encore, à absolument aucune décision ni aucune intervention.
Les deux journalistes du Monde ont expliqué depuis le début de l'affaire qu'ils ont obtenu leurs informations sur le déjeuner et la teneur des discussions par une autre source, c'est-à-dire pas par Jean-Pierre Jouyet, mais que Jean-Pierre Jouyet, ensuite, a confirmé leurs informations, ce qu'il a lui-même finalement reconnu, après avoir démenti dans un premier temps. Pourquoi a-t-il fait tout cela?
Mais la question.
Pourquoi a-t-il accepté de répondre aux journalistes sur la teneur des conversations pendant ce déjeuner? Est-ce que ça n'est pas une bêtise?
Je conseille toujours à ceux qui sont auprès de moi, et je m'excuse de le dire devant vous, de se méfier des contacts trop fréquents avec les journalistes, de ceux
mais où. Il y a la différence entre le off et le on. Mais, là, on est on, c'est-à-dire.
Moi, j'essaye d'être toujours en on et j'essaye de dire les choses telles qu'elles sont et non pas telles que je les voudrais ou telles que je les pense ou telles que je les espérerais, mais j'essaye de dire la réalité. Et donc, voilà, mais la question que vous me posiez faisait état déjà d'éléments qu'avaient eu les journalistes. Ils étaient 3 à ce déjeuner. Et donc, si les éléments ont été corroborés et étaient sus avant même de voir Jean-Pierre Jouyet, c'est quand même un des 2 autres convives ne dit pas aujourd'hui la réalité des choses.
Il peut y avoir une 4e personne à qui on a raconté, qui elle-même a raconté.
Oh, mais ça, je me
ça
méfie.
Bien comment ça se passe.
Je me méfie toujours, notamment en politique, des raconteurs. Il y a beaucoup de raconteurs et ceux qui veulent se faire mousser sur le dos des autres. Et donc, je ne vois dans cette affaire rien d'autre qu'un élément supplémentaire de la bataille absolument sans concession que se mènent et que vont continuer à se mener les leaders de droite.
Qui peut encore douter aujourd'hui que Jean-Pierre Jouyet va devoir démissionner ?
Mais Jean-Pierre Jouyet est secrétaire général, et ce que je vous dis depuis maintenant 5 minutes montre qu'en dehors de ce que l'on peut qualifier d'une maladresse, il n'y a absolument... Il devrait démissionner dans l'instant si un déjeuner donnait lieu à une intervention sur le cours des affaires qui ne dépendent pas et qui ne doivent pas dépendre du pouvoir politique et du pouvoir judiciaire. Ça n'a absolument pas été le cas. C'est pour moi la seule raison qui aurait pu justifier à ce que, dans la minute, si les choses s'étaient passées comme ça, il quitte son poste. Ce n'est absolument pas cela. Et donc, il est bien entendu nécessaire qu'il reste à sa fonction. Il ne peut pas
vous
y avoir...
Vous êtes prêt à prendre les paris, qu'il sera encore là dans quelques semaines.
Oui, moi, je ne prends pas de paris, mais je vois qu'il n'a aucune raison aujourd'hui de partir, tant ça voudrait dire qu'on arrive comme ça à accrocher le scalp de quelqu'un qui n'a aucune responsabilité dans cette affaire, au nom d'une division et d'une lutte sans merci entre des leaders de la droite.
La Cour européenne de justice a rendu hier un arrêt très important sur ce que certains appellent le tourisme social. Les États membres de l'Union ne sont pas tenus d'accorder des prestations à des citoyens d'autres États membres qui ne se rendent sur leur territoire que dans le but de bénéficier de l'aide sociale. Le Premier ministre britannique s'est immédiatement félicité de cette décision. La Commission européenne l'a également salué. Est-ce que vous-même vous approuvez ?
Écoutez, en tout cas, il faut en voir toutes les conséquences. Nous la découvrons, cette mesure. Elle ne met bien entendu pas fin à la question de la libre circulation, mais à la situation où pour s'établir dans un pays et pour avoir des raisons d'y rester, il faut avoir nécessité à pouvoir y subvenir à ses besoins. Et donc cela montre bien que dans les pays où il y a de fortes disparités, et il y en a au sein de l'Union européenne dans nos systèmes de protection sociale, il y a aujourd'hui des déplacements qui se fondent sur, très minoritaires très certainement, mais ils existent, qui se fondent sur l'accès à des prestations. Donc cette réaction, enfin ce jugement me semble un jugement qui dit des choses justes. On ne peut pas venir uniquement dans un pays de l'Union pour bénéficier des prestations sociales. Bien entendu, il faut regarder ensuite des situations qui sont des situations individuelles.
Est-ce que ça n'est pas un arrêt anti-Rome qui ne dit pas son nom ?
Écoutez, en tout cas, c'est pour ça que je suis très prudent. Je ne veux pas, sur ces affaires, qu'il y ait la moindre stigmatisation. Et quand il y a aujourd'hui une communauté qui, au sein de l'Europe, vit aussi mal que peuvent vivre la communauté rome, rejetée aujourd'hui aux marges de la société, je ne veux pas qu'une décision, qui est une décision de justice, apparaisse et bien entendu soit appelée par certains peut-être déjà comme la décision anti-Rome. C'est pour ça que je demande à être très très prudent sur l'analyse et la seule façon de s'en sortir, vous savez, c'est une harmonisation sociale qui permette dans tous les pays de l'Union européenne, c'est la responsabilité de la Commission d'avoir le nécessaire pour pouvoir subvenir à ses besoins et traiter les maladies et les problèmes que l'on peut avoir.
Le projet de loi de finances rectificative est présenté ce matin au Conseil des ministres. Le gouvernement s'apprêterait à compenser un important dérapage budgétaire qui est lié notamment aux opérations extérieures de la France, au Mali, en Irak, en Centrafrique. Montant total 2,2 milliards d'euros en annulation de crédit pour les autres ministères. Est-ce que vous savez quels sont les ministères qui vont être mis le plus à contribution ?
Non, je sais ceux qui vont être protégés.
C'est les ministères de la Défense, notamment.
Oui, c'est le ministère de l'Éducation, le premier, qui va être protégé parce que c'est la priorité. Mais il y a sur ces opérations extérieures un débat à avoir avec la Commission européenne et avec tous nos partenaires européens.
Qui, pour l'instant, n'est pas fructueux.
Non, on ne peut pas se féliciter que la France prenne ses responsabilités et elle sait les prendre. Et elle les a pris quand l'Europe était défaillante en matière diplomatique, en matière d'organisation. Elle a toujours su les prendre. Et donc, il devrait y avoir une double conséquence à cela. Mettre de côté, mettre à part ces dépenses qui sont des dépenses militaires utiles pour le monde et l'Europe dans la prise en compte des déficits. Et puis, il ne suffit pas de les mettre à part. Il faut que l'Europe y apporte sa part aussi. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas continuer. Je pense que la France doit prendre ses responsabilités.
Mais elle ne peut pas payer seule.
Mais elle ne peut pas être la seule à payer. Elle ne doit pas être la seule à payer.
Merci Bruno Leroux. Bonne journée.